Bonjour à tous, vous écoutez Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand. Et j'ai le bonheur de recevoir Françoise Théioux pour un livre, Je pense à votre destin, qui vient de paraître aux éditions Grasset, un livre consacré à la rencontre, à l'histoire, au parcours de vie entre André Malraux et Josette Clotis. Josette Clotis qui a été la compagne d'André Malraux et la mère de ses deux fils, Pierre Gauthier et Vincent Malraux. Voilà, donc c'est une histoire très émouvante, Françoise Théioux, que nous allons aujourd'hui relater avec vous. Ma toute première question, vous êtes spécialiste de Malraux, vous avez déjà publié plusieurs livres sur l'univers d'André Malraux. Est-ce que ce livre aurait pu être publié du vivant de Malraux?
Certainement pas. Tout le monde connaît l'horreur de Malraux pour l'intime. C'est magnifiquement exprimé dans les Antimémoires, où Malraux parle de son petit tas de secrets et de l'inintérêt du petit tas de secrets de chacun. On pourrait s'imaginer qu'il n'aurait jamais accepté évidemment que ce texte parût de son vivant, mais Florence Malraux, qui était la digne fille de son père sur ce chapitre, elle aussi voulait maintenir à l'écart tous les écrits intimes de Malraux, à tel point qu'elle a généreusement donné toutes ses archives à la bibliothèque Doucet, avec la clause que tout ce qui est d'ordre intime ne serait pas publié.
Oui.
Donc je n'ai pas eu accès à ce que Florence Malraux a remis à la bibliothèque Doucet. En revanche, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à une correspondance et des archives du côté de chez Josette, chez la fille de Suzanne Chantal, qui était l'amie intime de Josette Clotis. Et le père de Josette Clotis a donné à Suzanne Chantal, la mère de de Marie-Chantal Dos Santos, auprès de qui j'ai eu accès à ses archives, a donné évidemment tous les papiers de Josette, d'où le fait que j'ai pu consulter tout ce qui concernait Malraux entre 1933, on va dire, et 1944.
Alors, bon, est-ce que vous avez connu André Malraux?
Non, je n'ai pas connu Malraux personnellement.
Oui.
Je l'ai lu quand j'étais adolescente et il était présent pour moi à la télévision continuellement parce que dès qu'il paraissait, j'allais l'entendre, bien entendu. J'ai lu à peu près toutes ses œuvres, mais je ne l'ai pas rencontré personnellement, non.
C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'univers de Malraux? Est-ce que c'est le côté musée, puzzle, musée imaginaire, la vision de Malraux? Qu'est-ce qui vous fascine?
Tout me fascine chez Malraux. Tout me fascine chez Malraux parce que je dirais que je ne fais pas de différence entre l'homme et l'œuvre. Tant il est vrai que sa vie se déverse dans son œuvre et il vit son œuvre.
Bien sûr.
L'œuvre écrite a été vécue et continue d'être vécue. Il n'y a pas de limite. Je suis fascinée d'abord parce que je trouve qu'il est proprement génial. C'est un homme qui a un imaginaire, une capacité d'écriture, une culture, une ouverture de champ culturel formidable. Et c'est quelqu'un que j'adore, tout simplement, et qui est un de des grands maîtres de ma jeunesse.
Ah bah écoutez, alors Josette Clotis, c'est une femme d'abord qui a écrit plusieurs livres, elle a rencontré Malraux chez Gallimard, je crois, elle l'a croisé, elle était journaliste, enfin... Elle avait un côté un peu provincial, on peut dire.
Elle est tout à fait provinciale. Hein? Elle est de Beaune-la-Rolande. Il n'y a pas plus province, je ne voudrais pas dire de mal des gens de Beaune-la-Rolande, mais il n'y a pas plus province que Beaune-la-Rolande.
Oui.
Et même ses parents, dans son enfance, achètent une maison dans un petit village à côté de Beaune-la-Rolande. Elle est même villageoise, si l'on veut. Pour autant, elle est littéraire. C'est une lectrice. C'est une lectrice, elle est d'un milieu ouvert, je dirais en passant quelque chose d'intéressant, je crois. Elle avait un père franc-maçon. Et donc, c'est très intéressant parce qu'au fond, elle n'a pas été asphyxiée, je dirais, par la culture religieuse bourgeoise. Et M. Clotis avait les idées extrêmement ouvertes. Comme tous les francs-maçons, il avait le culte de la fraternité. Donc, elle a été élevée dans un milieu ouvert et qui, au fond, a accepté qu'elle écrive. Elle a écrit à Monterland. Enfin, elle écrivait aux auteurs. Il y avait probablement chez la jeune adolescente Josette Clotis une sorte de fantasme amoureux par rapport aux écrivains. Et elle avait envie d'épouser un écrivain parce qu'elle voulait se marier quand même, parce qu'elle était quand même du côté de l'establishment, parce qu'elle n'avait pas l'intention, je crois, de travailler de ses mains. Hein. Oui. Donc, Josette Clotis, voilà. Donc, c'est une provinciale, c'est une jeune femme, elle est très jolie et sa beauté va compter énormément. Je pense qu'elle va séduire Malraux, c'est évident. Je dis au passage qu'elle sera à un moment donné le mannequin de Jeanne Lanvin.
Oui.
Et dès qu'elle va.
On dirait taille mannequin.
Elle a la taille mannequin, elle est très aimée de Jeanne Lanvin qui lui fait crédit. Voilà, ce qui finit par coûter très cher à son entourage. Mais elle va essayer de faire son chemin sur la pointe des pieds. C'est le nom qu'elle avait donné, On Tiptoe. Oui. C'est le nom qu'elle avait donné au journal auquel elle collabore alors qu'elle a seulement 16 ou 17 ans. Et elle entre là dans le journalisme féminin. Et je trouve qu'il est intéressant de la situer par rapport à la naissance de ce journalisme féminin. On est dans l'antichambre de Elle.
Oui.
Hein, ce côté finalement dandy féminin, qui va très bien, qui est symétrique de celui de Malraux, fait qu'il y a, avant qu'ils se rencontrent même, une sorte de convergence dans la personnalité des deux partenaires.
Oui, exactement. Mais Josette Clotis n'a jamais été à sa place. Remarquez, peut-être que Malraux non plus n'a-t-il jamais été à sa place. Est-ce pour réparer cette injustice que vous avez écrit ce livre? Je vais vous lire Françoise Théioux. Près de 50 années plus tard, il reste de bon ton de ne pas trop prendre au sérieux Josette Clotis, voire de la mépriser, trop séduisante pour ne pas être séductrice. Elle reste suspecte. Méritait-elle Malraux? Non. Voilà. Elle est un peu victime aussi de sa beauté, de sa.
Elle est victime de son apparence. Elle est victime de son apparence. Et bon, je dois dire que moi, qui ai bien fréquenté le milieu malrussien, sur le plan universitaire, ce sont essentiellement des messieurs qui sont des malrussiens. Mmh. On est plutôt du côté des conquérants et de la condition humaine. Vous savez qu'il n'y a pas de femmes dans les romans de Malraux. C'est le point noir. Hein. C'est le point aveugle des romans de Malraux. Il n'y a pas de femmes. Ces messieurs, effectivement, n'ont jamais accordé une grande importance à Josette Clotis. Et c'est vrai que, moi, je trouvais qu'il y avait là, peut-être, une justice à lui rendre.
Oui.
Ça m'a fait plaisir d'écrire sur elle.
Oui, voilà. Parce que je ne vous cache pas qu'on ouvre votre livre, Françoise Théioux, pas par curiosité pour Malraux, parce qu'on connaît beaucoup de choses de Malraux, mais pour Josette Clotis,
absolument.
Parce que c'est une femme... non seulement qui a été mise de côté, on a l'impression que sa vie, elle est morte à 34 ans.
Oui.
Ses deux fils vont mourir, l'un à 20 ans, l'autre à 18 ans. Donc l'impression, c'est la face cachée de l'univers de Malraux, qui a beaucoup compté aussi. Vous écrivez d'ailleurs, l'écrivain, enfin, aurait-il aimé si longtemps une femme si elle n'avait eu la répartie, le tempérament, la gouaille et le goût de Josette, dont la mort seule le sépara. Sauf à croire que Josette aima, souffrit, enfanta, écrivit et mourut à contre-temps. Est-ce une femme à contre-temps, Josette Clotis?
C'est une femme à contre-temps. D'abord, elle est à contre-temps dans la vie de Malraux.
Oui.
Ça, il faut le dire.
Oui.
Malraux, l'aventure avec Clara, enfin, le mariage avec Clara est probablement usé. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble, mais Malraux a envie de voler de ses propres ailes. C'est aussi la période, la condition humaine, le prix Goncourt. Il est célèbre, bon. Alors, elle est un peu dans l'ombre de Malraux et elle va être d'une certaine façon victime de Malraux parce qu'elle est un écrivain. Ça n'aurait probablement pas été un grand écrivain, mais elle ne va plus écrire à partir du moment où elle sera Malraux. Elle ne pourra plus écrire parce qu'elle va être d'abord habitée par la passion qu'elle a pour Malraux et ensuite elle va tellement sentir sa supériorité et lui-même va tellement lui faire sentir sa supériorité, sa propre supériorité par rapport à ce qu'elle écrit en allant regarder au-dessus de son épaule ce qu'elle écrit et en faisant la grimace. que finalement, d'une certaine manière, il va quelque part l'anéantir. Donc, ce destin tragique, il l'est. C'est dommage qu'on n'ait pas mis les musiques que j'ai apportées.
C'est une
aventure qui part sur les chapeaux de roue et en même temps, elle est déjà mélancolique.
Ouais. Je pense à votre destin. Moi, au départ, j'ai pensé que c'était une phrase de Josette Clotiste, et en fait, non, c'est une phrase de
Malraux qui, lorsqu'il est à Provins, engagé comme simple homme au début de la drôle de guerre, lui écrit à un moment donné : Je pense, exactement, c'est je pense à vous, je pense à votre destin. Et donc, je ne sais pas, vous allez probablement m'interroger sur cette correspondance, mais correspondance qui est si peu amoureuse dans les termes.
Ah oui.
Mais il faut comprendre...
C'est même expéditif. Hein.
C'est télégraphique. Vous avez raison. D'abord, Malraux n'est pas un épistolier.
Ah non.
Il n'aime pas écrire. Pour lui, l'écriture, c'est le coup de téléphone. C'est le SMS actuel, c'est ça. Et en plus, il a horreur de l'effusion. Donc, il lui écrit tous les jours. À peine est-il arrivé à Provins qu'il commence à lui écrire. Et là, il fait une belle lettre, d'ailleurs. C'est très intéressant de voir comme la première lettre est une belle lettre. Puis après, on a des lettres qui sont plutôt factuelles et qui sont, il faut le dire, occupées par un événement capital pour eux, à savoir Josette est enceinte.
Voilà. Elle sera enceinte plusieurs fois. Elle va avoir plusieurs fausses couches.
Elle va être enceinte plusieurs fois. Elle va faire plusieurs fausses couches. Là, on est dans... C'est le film de Godard, hein. Pas de Godard, pardon, de... Une affaire de femme. Une affaire de femme, si bon. Le nom m'échappe, excusez-moi. C'est la nouvelle vague, bon.
Oui.
Où on raconte le problème de l'avortement. Elle est d'abord condamnée à l'avortement. Elle espère qu'il va lui faire échapper à l'avortement. Mais Malraux n'a aucune idée de ce que ça peut être qu'une femme enceinte. Voilà, les aiguilles à tricoter font partie de l'univers, vaguement, de l'univers masculin de l'époque. Et à cet égard, Malraux est un homme de son temps.
Déjà aussi pour la naissance de sa fille, Florence... C'est Clara Malraux qui avait 35 ans à peu près, qui a insisté pour avoir cette fille. Mais lui, on sent que la paternité...
Ça l'intéresse pas du tout.
Ça l'intéresse
c'est
pas.
C'est le dernier cadeau qu'il fait à sa femme. Elle lui demande avant qu'il se sépare qu'elle ait un enfant. Et elle a cet enfant, il ne s'y intéresse pas. Elle lui dit joliment, parce qu'elle est extraordinaire, Clara, « Ça, vous ne savez pas faire.
» Voilà,
c'est sa revanche.
Alors c'est vrai que Josette Clotiste, c'est vraiment une femme aussi de l'entre-deux. Hein. La période de la guerre, ça va couvrir entre 36 et qu'elle meurt en 44, c'est ça?
Elle meurt en 44.
12 novembre 44.
Elle est contemporaine, très contemporaine, mais il faut le dire parce que c'est très important pour Malraux, de la montée du fascisme et de la lutte contre le fascisme, qui est essentielle pour Malraux. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire dès maintenant, enfin, l'amour pour Malraux est manifestement une passion secondaire, et, comme pour Corneille, il était d'ailleurs extrêmement cornélien. Et d'ailleurs, à l'époque, Malraux est certainement beaucoup plus intéressé à combattre Hitler, puisqu'il est prêt, il va avec Gide à Berlin pour faire délivrer Dimitrov. Enfin, c'est une histoire absolument extraordinaire. Ça rate. Et il se dit, mais ça fait rien. Il mitonne un enlèvement de Dimitrov. Bon. Donc, tout ça est extrêmement important. Et Josette ne comprend rien à la politique.
Non,
rien à la politique, ça n'est pas sa culture, elle est très jeune. Monsieur va lire des pages, je ne voudrais pas anticiper, mais elle, à un moment donné, elle se rend bien compte que... Vous me laissez l'autorisation de dire un tout petit peu? Non, peut-être pas.
Allez-y.
Il trouve que mes problèmes sont le béaba de la pensée et qu'on ne peut s'arrêter à de telles niaiseries, mais puis-je faire autre chose que de commencer par le commencement? Il vous rencontre à 20 ans et s'étonne que vous ne soyez pas déjà toute faite. Et moi aussi, j'en ai eu la honte. Pourquoi n'étais-je pas tout achevée dans ma perfection quand il est venu? Je ne sais pas ce que serait l'éducation d'une autre fille. Était-ce l'incurie de mes parents, de mes maîtres? Était-ce quoi? À 20 ans, je n'étais rien, je ne savais rien. À 14 ans, on est un bébé, une nièce, on apprend Charlemagne, tout le monde est d'accord là-dessus. À 18 ans, on pense à la coquetterie, aux hommes, toutes tracassées de sensualité. Est-ce suffisant cet espace pour lire tous les livres, être savante, arriver à un homme, pleine et parfaite comme une perle? Or, depuis 20 ans, tu ne m'as aidé en rien. Je n'ai pas progressé d'un pouce. Tu m'as abruti de l'envie de toi, de l'envie de t'avoir, abruti de vouloir, de lutte où tout sombrait. Nous considérons que tous l'éducation scolaire comme moins que rien, et qu'elle est la femme qui, de 20 ans à 25 ans, harcelée à arracher de haute lutte son destin à la vie, trouvera le moyen de se livrer, entre-temps, à l'étude raisonnée de Hegel.
Ouais.
Je crois que là, c'est magnifiquement posé.
Voilà. Et elle dit aussi, mon amour, où êtes-vous ? Quel étrange destin d'être constamment hors de ce qui fait votre vie du matin au soir. Donc, c'est la femme de l'ombre, c'est la
Absolument.
Femme de l'entre-deux.
Oui.
Alors, qui est Françoise Théillou ? Qui est Suzanne Chantal, ce personnage ?
Alors, Suzanne Chantal, c'est la meilleure amie. Suzanne Chantal, c'est l'amie intime de Josette.
Voilà.
Sa confidente, etc. Et Suzanne Chantal, c'est une femme assez remarquable qui a publié un livre sur Josette Cottis que vous avez dû lire.
Le cœur battant.
Le cœur battant, c'est ça. Et donc, c'est elle qui a été l'héritière de ces papiers. Et Suzanne Chantal, c'est la confidente, c'est celle qui va payer Jeanne Lanvin, c'est celle qui va la conseiller par rapport à Malraux. Elles auront été extraordinairement intimes et ça aura été sa biographe. À l'époque, Suzanne Chantal est une femme remarquable. Elle est à la tête de Cinémonde.
Ah, d'accord.
Et elle est éditorialiste à Cinémonde et elle fait de la traduction, du sous-titrage de films, en particulier du film américain. Et c'est une des toutes premières grandes journalistes de l'entre-deux-guerres et elle fait aussi du journalisme féminin. Donc, c'est une personnalité intéressante et qui aura compté.
Et alors, on va présenter aussi Françoise Théillou. Alors, ce livre raconte, donc c'est un récit de l'histoire
oui.
entre Malraux et
Josette
et leurs enfants d'ailleurs.
Oui.
Et puis il y a des inédits, hein, faut que vous nous présentiez ça. C'est-à-dire qu'il y a quatre parties, il y a les quatre billets de Malraux, il y a un cahier de Malraux, il y a les cahiers de Josette Cottis. Enfin, comment vous avez trouvé ces documents ? Comment ça s'est fait pour rassembler toutes ces documentations
Écoutez, je vais vous dire la vérité parce que j'aime bien dire la vérité.
Oui, écoutez.
Cette amie qui est la fille de Suzanne Chantal et qui a récupéré les papiers de sa mère.
Oui.
Bien. Me téléphone un jour, me dit François, j'ai de gros problèmes d'argent. À quoi je lui réponds, mais Marie Chantal, vous avez certainement pas de verre par devers vous des papiers de Josette, des lettres de Malraux. Pourquoi ne les vendez-vous pas ? Et moi, je ne sais pas. Je dis, moi, je suis parisien, je peux m'occuper de tout ça. Je ne suis incapable de le lire. Je dis, moi, je le déchiffre très bien. Et j'ai récupéré de cette manière la correspondance que je publie là, qui est une
oui.
correspondance courte, hein,
oui,
mais
courte.
Qui est une correspondance entre avril 38 et juillet 38, quand il est tout simplement à Provins, engagé comme dragon. Et après, c'est très intéressant parce que c'est après l'évasion, il y a une coupure dans la correspondance, et après il y a l'évasion. Et j'ai dit à Marie-Chantal, écoutez, il me faudrait des textes de Josette, et elle m'a dit, des textes, ben, j'en ai plein. Et elle m'a envoyé une énorme liasse de papiers. Alors, toutes sortes de papiers, des pelures, des factures, d'ailleurs des factures de la Souko du temps où ils étaient ensemble, des prospectus de la perception de son père, où elle s'écrit. Et au fond, la passion qu'elle a vécue avec Malraux, ce qu'elle n'a pas osé lui dire, la colère qu'elle a eue parfois, elle l'a jetée sur le papier.
Ouais.
Et donc, j'ai essayé de faire une espèce de petit compendium, de petite anthologie, si vous voulez, des textes personnels de Josette. Et vous voyez, par exemple, j'avais jamais lu à haute voix le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Ben, je trouve qu'il tient drôlement debout. Et que finalement, c'est un joli texte et qu'elle a vraiment l'encre dans le sang.
Oui, c'est ce que vous dites.
Hein. Et je pense qu'un jour, il faudrait publier Josette Cottis.
Il y a encore beaucoup d'inédits ?
Je suis incapable de vous le dire parce que c'est Marie Chantal qui a ça.
Oui.
Et alors, ce qu'on a perdu en revanche, c'est
oui.
une énorme correspondance avec Jeanne Sandelion,
oui.
qui a été le modèle de Monterland, qui était folle amoureuse de Monterland, mais bon, ça ne pouvait pas marcher. Et elles ont eu toutes les deux une correspondance extrêmement abondante qui, malheureusement, a été dispersée en vente publique. Donc voilà, mais les papiers personnels, à mon avis, il faudra un jour que quelqu'un s'en occupe.
Bon, alors Laurent, on va t'écouter lire une lettre de Malraux, et puis après on fera une pause musicale.
Donc nous sommes à la page 193 de ce livre. Je pense à votre destin, André Malraux et Josette Cottis, 1933. 1944 par Françoise Théillou chez Grasset. Vous me parlez de 8 lettres. J'en ai reçu une, celle où vous avez mal à la jambe. Les autres sont sans doute en attente dans quelques coins, en attente de la reprise de relations postales. Je ne sais ce que vous avez reçu vous-même. Il y a 2 lettres que vous semblez avoir reçues. Puis 2 autres, par une autre voie. Et celle-ci. Je ne parle pas des cartes pour vous prévenir que j'étais prisonnier. Je ne sais donc toujours rien de ce qui vous est arrivé depuis que vous avez quitté Paris. Pour moi, provisoirement, je suis sauvé des univers imbéciles. Je suis ici avec un certain nombre de copains à la disposition de la municipalité. Somme toute, libre, sauf interdiction de quitter le village, à la condition de faire des cours pour les gosses au-dessus du certificat d'études. Ce n'est pas un idéal de vie, mais c'est absolument supportable. Si vous étiez en France occupée, vous pourriez me voir 4 ou 5 jours par mois. Le malheur, c'est que nous ignorons si tout ça durera jusqu'à la paix, étant donné que les Allemands ont le droit de vous appeler quand ils voudront et de vous recoller dans un camp. J'arrive à travailler près d'une demi-journée, chaque jour. Je pense, j'espère que, quoi qu'il arrive, quand tout ça sera fini, nous pourrons recommencer tout presque tranquille. Sauf si les choses vont trop mal en France. Impossible d'en juger comme de la guerre elle-même, car nous n'avons évidemment que des nouvelles plutôt sélectionnées. En tout cas, ne vous en faites plus pour moi. Sauf l'absence de nouvelles, je suis moins embêté que je ne l'ai été depuis le début de Provins. Pour le bonheur, voici. Il est possible que ce que je pense vienne de ce que je ne suis pas encore déshabitué d'être blessé et prisonnier. Mais je ne crois pas. Je me souviens qu'en Perse, quand, après les jours de désert, je retrouvais les peupliers et l'herbe, je comprenais ce que sont les peupliers et l'herbe, et pas seulement l'oasis. Et que, même dans un pays comme la France, où il y a de l'herbe, pourtant, je ne l'ai pas oublié. Et maintenant, la vie me fait l'effet d'une oasis. Et ça ne diminue pas avec les jours. Il y a 15 jours que nous sommes ici. Au contraire. La limite, c'est la solitude. Ce qu'on peut rêver de bonheur est fait pour être partagé. Le bonheur, c'est peut-être aussi une présence. Je vous embrasse. Un chat fil de fer.
Thank you. C'est un hommage à un grand décédé, le pianiste classique américain, c'est comme ça qu'il se définissait, c'est Ahmad Jamal, mort là il y a quelques jours. Bibliomanie, Radio Libertaire.
Voilà, nous poursuivons notre conversation avec Françoise Théhou à propos d'un livre très émouvant, Je pense à votre destin, André Malraux et Josette Clotis, 1933-1944. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Alors, ce chat fil de fer, Françoise Théhou, c'est là où on voit toute la pudeur d'André Malraux dans ce fil de fer.
Effectivement, ce fil de fer qui, d'un seul trait de plume, ou de crayon, est dessiné par Malraux. D'abord, vous savez, l'amour forcené de Malraux pour les chats et pour les êtres de fuite, pour la beauté des chats, la beauté baudelairienne des chats, les chats puissants et généreux. Écoutez, j'ai perdu le fil.
Le fil de fer. Nous étions. Voilà.
C'est la signature de Malraux. Oui, ça n'est pas André qui signe. C'est Malraux dessinant un chat.
Ou un chat vu de profil, souvent.
Alors, un chat vu de profil, et la chat, c'est la douceur, c'est le mystère. Et fond, c'est son monogramme, en quelque sorte. Et il signera toujours les lettres à Josette par un chat. Et quelquefois, quand elle est enceinte et qu'elle va avoir un enfant qui l'accepte enfin, deux chats côte à côte, ensemble. C'est extrêmement joli. Je n'ai pas pu le donner dans mon livre. Bon, ça n'a pas pu se faire. Donc, voilà. Alors, fil de fer, c'est un terme d'éditorial. Une signature qui est une sorte de monogramme, ça s'appelle un fil de fer.
On a tout. J'ai cherché, j'ai trouvé un chat fil de fer, c'est formidable.
Voilà.
Françoise Théhou. Alors c'est vrai que André Malraux, c'est un être très pudique.
Très.
Ça fait partie de ses qualités, on peut dire.
Oui.
Mais il est tellement pudique qu'il parle finalement. Il dit pas beaucoup de choses dans ses lettres. C'est faut vraiment vous voyez, Laurent, tu viens de lire une lettre. Enfin, il parle du bonheur.
Enfin, il parle du bonheur, mais c'est par de petites échappées. Enfin, c'est quelque chose. Jamais Malraux n'exprime ses sentiments, mais il ne les exprime pas davantage en tête à tête.
Ouais.
Et au fond, elle va être extrêmement malheureuse parce que, au fond, elle va très vite douter de l'amour de Malraux pour elle. Je pense qu'il n'y a pas à douter parce qu'il l'a gardée avec elle, avec lui, quand même extrêmement longtemps. Mais il était incapable d'exprimer ses sentiments. Voilà. Vous savez, il faut peut-être aller chercher dans l'enfance, les parents divorcés.
Son père s'est suicidé, je crois.
Voilà. Pas plus ou moins.
Suicidé
dans la famille chez Malraux.
Exactement.
Le grand-père s'est suicidé, le père s'est suicidé, la mère meurt l'année où il rencontre Josette, il perdra ses deux fils. Valérie avait une formule, il disait Malraux. Adossé à la mort comme un causeur à la cheminée. Et obsédé par la mort. La mort, c'est peut-être le thème essentiel avec la fraternité de son œuvre. Que ce soit dans la condition humaine, mais alors une mort complètement sublimée, transcendée, c'est le cyanure qu'on donne aux camarades pour ne pas aller dans la chaudière. C'est très beau. Mais il y a très certainement chez Malraux une incroyable mélancolie qui ne s'exprime pas, mais qui le rend un peu mutique concernant ses sentiments. Et ces trois femmes, un peu confites dans l'eau bénite, qui l'ont éduquée, la déception de la religion chrétienne. Il dit qu'il attendait une révélation de sa communion solennelle et que la confirmation, qui est cette cérémonie qui venait confirmer la communion solennelle, ne lui a pas davantage fait croire et qu'au total, il ne s'en est jamais vraiment remis. Et on peut peut-être penser que ce ne sont pas les femmes qui vont remplacer ce manque, c'est l'art, très probablement.
Oui, d'ailleurs, à un moment
donné. L'art va jouer un rôle compensatoire. La sublimation, elle sera du côté de l'art beaucoup plus que du côté de l'amour.
Bien sûr. Alors d'ailleurs, lui-même écrit, voilà ce qu'il dit de lui-même, Malraux. Je n'ai jamais écrit un roman, j'ai poursuivi une sorte de méditation ininterrompue qui a pris des formes successives, dont celle du roman. Et il ajoute aussi, d'ailleurs, j'ai écrit des romans, mais je ne suis pas un romancier. Il ajoute plus loin, j'ai vécu dans l'art comme on vit en religion.
Absolument.
Donc, c'est un homme secret, c'est un homme d'engagement, on peut dire,
oui,
puisque
absolument.
Malgré tout, avec Clara Malraux, sa première femme, avec lequel, et d'ailleurs je crois il s'était marié le même jour dans quatre religions différentes, enfin oui, c'est oui, absolument oui, plus que marié avec Clara Malraux. Oui. On peut dire que c'était un peu son alter ego sur le plan intellectuel quand même.
Il entre dans l'amour par l'intelligence. Il dit la déclaration d'amour de Malraux à Clara, c'est lors d'un dîner chez Florent Fels, qui est un éditeur, et là elle traduit des textes allemands pour lui, c'est « Vous êtes aussi intelligente que Max Jacob ». C'est-à-dire que vous avez l'intelligence d'un homme.
Voilà.
Vous êtes intelligente.
Voilà ce que vous dites de Clara Malraux. Clara traduit, ce fut son premier métier, inlassablement. Elle sert de truchement en hébreu avec les intellectuels perses, juifs convertis au soufisme, en allemand et en anglais, avec les trafiquants d'antiquités, pour son homme, à ses risques et périls. Donc c'est une femme de gauche, une femme engagée.
Tout à fait. Plus à gauche que lui.
Plus à gauche. Plus
anard.
Oui, anard. Et plus libertine que lui. Parce que c'est elle
plus. Oui, ouais, hein? D'ailleurs, elle le trompe aussi pour essayer de ranimer un peu la flamme. Elle n'allume que la colère.
Et alors, la fin de leur histoire, c'est 1936, hein, on peut dire. Vous dites, le couple est usé. À 40 ans, il ne pouvait plus me supporter. C'est là que notre histoire devient plus générale. Ça, c'est Clara, je crois, que vous
c'est
citez.
C'est Clara qui dit ça, que je cite. Dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir le bruit de nos pas.
Voilà.
C'est magnifique, il faut lire le bruit de nos pas. Pour quand on aime Malraux, parce que c'est pas très bien écrit, parce qu'elle écrit pas, c'est pas un écrivain, mais elle raconte merveilleusement tout ce qu'ils ont fait ensemble, et quelle œuvre, quelle
oui,
œuvre.
Et puis là, même dans nos 20 ans, c'est chez Grasset aussi, dans la collection Les Cahiers Rouges, on peut lire Clara Malraux.
Absolument.
Et j'allais presque le faire lire à voilà. Il y a un portrait de jeune de Malraux qui vaut...
qui est excellent.
Qui est excellent.
Qui est
peut-être,
excellent.
Oui, peut-être, attends. Voilà, on lira peut-être tout à l'heure, mais voilà, on a tellement de choses à dire. Et puis nous parlons de Josette Clotis. Alors, d'ailleurs, Josette Clotis a un regard. Elle n'est pas dupe. Hein. Elle n'est pas dupe de Malraux.
Pas du tout. Elle est très fine mouche. Elle le perce très bien. Mais seulement, ce qui se passe, c'est qu'elle est tellement passionnée. Elle est mais dépendante physiquement et sentimentalement de lui. Elle lui dit à un moment donné, il va bien falloir que vous vous chargiez de moi puisque je ne peux pas me passer de vous.
Voilà ce qu'elle dit d'ailleurs. André s'échappe de temps en temps pour voir sa fille, donc Florence Malraux, une paternité à jour fixe. Voilà. Parce que lui, toute sa vie est organisée, tac, 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 oui. Sa correspondance c'est petit A, petit B, oui. Petit C. Oui. C'est un homme d'action.
C'est un homme d'action. Il disait d'ailleurs, quand j'écris ce que j'écris, on agit.
Ouais.
Voilà. Donc c'est quand je disais tout à l'heure que la vie et l'œuvre étaient complètement inséparables et qu'il y avait des vases communicants entre les deux, c'est ça. Alors c'est intéressant ce que vous avez dit là, parce que quand elle dit une paternité à heure fixe, là il y a quelque chose de Josette que les gens ne connaissent pas, que moi j'ai essayé de rendre un petit peu dans les textes. Elle est gouailleuse. Elle a du culot, elle
oui,
a de la gouaille,
oui, oui.
Elle dit que les intellectuels sont tous des cinglés, ils sont tous homosexuels, c'est l'époque, hein, alcooliques, etc. Évidemment, elle ne rencontre que des adultères et elle voudrait qu'il lui soit fidèle et donc pour elle, c'est scandaleux. Mais elle a, comme vous dites, un regard assez acéré sur la réalité, en particulier pendant la guerre aussi, quand elle est dans les restaurants chics, là, où elle voit les embusqués, elle a elle repère très très bien les gens qui ne vont pas se battre, qui s'en mettent plein la lampe parce que les autres crèvent de faim, etc. Donc elle voit tout ça. Hein.
Elle voit tout ça. Et il faut dire aussi, dans son cas, elle, comme pour le cas de Clara Malraux, Malraux, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme influent, surtout sur le plan éditorial. Voici ce que vous écrivez, Françoise Théilloux. Malraux a été introduit chez Gallimard par son très proche ami, Marcel Arlan, en 1928. Il est engagé comme directeur artistique. Gaston lui confie les éditions de luxe et le fait entrer au comité de lecture. Le temps d'une décennie, il se montrera un extraordinaire éditeur. Voilà ce que, et plus loin, Malraux et son homme, rue Sébastien Botin, son patron disait de lui, il est utile et existant. Donc Malraux, c'est un homme
il
de pouvoir.
Il est utile en existant.
Voilà.
C'est fou, un Gaston.
Voilà. Donc c'est un homme de pouvoir. Donc les deux femmes, ces deux premières femmes qui ont partagé sa vie, écrivaient et en avaient parfaitement conscience aussi.
Absolument. Et vous l'avez dit, vous avez très bien fait de dire que, enfin, il est au comité de lecture. Écoutez, il n'a pas 30 ans.
Voilà.
C'est rarissime. Et manifestement, on se fie à son jugement. Gide est en admiration devant Malraux. C'est une pointure littéraire et tout de suite. Et il fait un malheur ça me revient tout à l'heure. au colloque de Syrizy, quand il débarque là, il fait un discours extraordinaire, pro-communiste d'ailleurs, hein, anti-bourgeois, et les gens sont absolument éberlués, c'est absolument magnifique.
Alors il y a aussi un point, c'est l'argent qui revient dans leur correspondance. Malraux est un dandy et Josette aussi, elle est pas femme du tout à s'économiser au propre comme au figuré d'ailleurs. Depuis l'été, dèche récurrente, l'argent manque. Josette explique très bien qu'ils n'ont jamais d'argent parce que l'un comme l'autre, ils ne savent que le dépenser.
Nous le dépensons, disait-elle. Nous le dépensons. Alors ça, d'ailleurs, on pourra trouver que la correspondance n'est pas si intéressante que ça parce qu'il y a beaucoup question d'argent.
Oui, c'est vrai.
Mais alors ils avaient une façon de parler de leurs finances. P-H-Y-N-A-N-C-E. C'était le même terme avec Clara. Malraux se débrouillera toujours pour avoir de l'argent parce qu'il était d'une famille de commerçants, je dis. C'est un homme d'affaires.
Hein. Oui.
Il veut pas travailler. Quand il a plus d'argent, qu'il a joué la dot de sa femme, vous ne pensez tout de même pas que je vais travailler de mes mains à Clara. Mais bon, il se débrouille. Et puis alors, ce qu'il faut dire, c'est que Gallimard, à ce moment-là, banque, parce que Gallimard a tout à fait compris que Malraux était un homme d'avenir et qu'il n'y avait pas à faire d'économie avec lui. Il sera à la tête de la galerie de la Pléiade, une galerie d'art.
Ouais.
Une galerie d'art pour laquelle il va fournir en antiquité extrême-orientale. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, Malraux chez Gallimard, entre les deux guerres.
Et on peut dire que Malraux est un marginal, parce que tous les deux sont quand même à part. Vous dites autre mystère, car enfin, voilà un homme célèbre, mais un empirique, un personnage clivant, resté longtemps marginal. Après, plus loin, vous dites d'ailleurs qu'il avait entre autres, ça c'est rigolo, mais c'est connu, mais bon, plus ou moins, reconnaissable entre mille avec son syndrome de Gilles de la Tourette.
Eh bien, écoutez, je suis bien contente que vous parliez du syndrome de Gilles de la Tourette, parce que vous savez, en fait, les gens, vous savez, c'est affreux, c'est un personnage clivant. Alors bon, moi qui suis avec mon livre là et qui voyage un peu, etc., ouais. On me dit qu'il est voleur, on me dit qu'il est drogué, on me dit, etc. Ça me tue, vous comprenez? Mais et on attribue ses tics, il était bourré de tics, au fait qu'il a touché à la drogue. Mais ça n'a strictement rien à voir. D'abord, il a assez peu fumé d'opium, il a fumé du chanvre indien, mais il marchait surtout aux amphétamines. Mmh. Et ses tics extraordinaires, ses reniflements, sa façon de parler très outrée, c'est lié à une maladie, à une neuropathie qui s'appelle le syndrome Gilles de Tourette, du nom de l'inventeur de cette neuropathie, qui avait ces caractéristiques. Mais ça n'a rien à voir avec des excès d'aucune sorte.
Oui, parce que paraît-il des amis, moi j'ai souvenir de lecture, ils allaient au restaurant, mais comme Malraux avait ce syndrome... Il pouvait dire n'importe quoi, très fort, je crois.
Hein, voilà, absolument.
Il était très, très étonné, parce qu'il était ministre à l'époque.
Ah oui, hein. Et puis alors, vous comprenez... de toute façon, Malraux dit, tous les génies sont des marginaux.
Oui.
Donc, la marginalité, pour lui, ça va de soi. Et bon, il prenait quand même du bromure pour essayer de soigner ces tics-là. C'était le seul calmant qu'on connaissait à l'époque. Hein. Mais il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Et j'essaie de dissiper une erreur.
Bah, il faut dire qu'avec cette vie, avec beaucoup d'ombre, comment ne pas être atteint? Comment ne pas boire non plus? Parce qu'à la fin, il est à l'alcoolique. Parce qu'on peut dire qu'il y aura avant... Et après la mort de ses fils. Enfin, il y a Malraux avant la mort de...
Oui.
Et peut-être avant et après la mort de Josette Coty, je ne sais pas, mais bon.
Oui, oui. Vous savez, je ne voudrais pas trop me hasarder, mais il n'est pas paternel. Il était attaché au premier. Gautier, que Josette lui avait fait dans le dos quand même. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il a certainement eu du chagrin, mais il faut voir que la vie à Boulogne avec ses deux adolescents était épouvantable. Car ces adolescents se sont quand même révoltés contre leur père, en particulier le second, qui faisait fugue sur fugue. La vie à Boulogne était insupportable. Or, Malraux, c'était libéri à haute librie, des livres... des enfants ou des livres. Les deux, ça marchait pas ensemble. Or, il fallait qu'il fasse la police quand il se battait à coups de chaîne de vélo dans le garage de l'avenue Robert Schumann. Ça a été une vie d'enfer. Donc, quand ils sont morts, ce qu'il y a, c'est que quand ces enfants-là meurent, ils se portent mal. il se porte mal, il fait une dépression alcoolique.
Ah oui.
Il est et d'ailleurs la séparation d'avec Madeleine, c'est lié à ça. Elle ne supportait plus qu'il boive et elle s'était murée dans le silence. Et elle lui disait. Il lui disait j'ai épousé une muette, et elle lui disait je suis muette parce que vous buvez et je bois à cause de vous, lui disait-il.
Voilà ce que vous dites, oui. François Stéyou. Un dimanche matin, après les avoir convoqués à comparaître devant lui à midi sonnant, il leur annonce que désormais nous ne nous embrasserons plus. Voilà. Et il conclut vous pouvez disposer. Ça, c'est quand il voit ses fils, comment il se comporte avec ses fils. Et il se mure dans le silence, dites-vous aussi, Madeleine aussi, j'ai épousé une muette. Si je suis muette, c'est parce que vous buvez.
Voilà.
Josette m'a dit autrefois que vous aviez fini l'espoir au Pernod. Si je bois, c'est à cause de vous. Le pacte conjugal se fissure. Voilà ce que vous écrivez.
Ouais.
Alors avant ça, il faut qu'on revienne au drame, premier drame, qui est la mort de Josette Clotis, qui va mourir d'une façon terrible, affreuse, un accident.
Et c'est une affaire compliquée. En fait, ce qu'il y a, c'est que la mère de Josette voit bien que Josette est dans une impasse, d'une certaine façon, par rapport à l'idée d'un ménage bourgeois, des enfants, etc. Il y a des enfants sans mariage, etc. Et Madame Clotis, qui n'a pas vu sa fille de très longtemps et qui ne connaît même pas ses petits-enfants, vient à Saint-Chamond la voir. Et très vite, le ton monte entre eux, elle se fâche. Et à tel point que la vieille dame part un jour avant. Josette la conduit avec son amie Rosine Delclos, la femme du notaire de Saint-Chamond. Elle discute tellement âprement que Josette monte dans le train avec sa mère. Rosine monte également. Et puis, à un moment donné, elle met la valise dans le filet. Et puis voilà que le train part. Rosine Delclos a le temps de sauter du train, mais juste le temps. Josette est juste derrière et elle rate le marchepied. Les femmes avaient à ce moment-là des semelles de liège et elle se tord la cheville et elle glisse entre le train et le ballast et elle a les jambes broyées. Voilà la fin de Josette Clotis, qui est absolument extraordinaire. On la retire de là, on l'emmène à Tulle. Où on ne peut rien faire, elle est sous morphine, elle se fait maquiller une dernière fois pour que Malraux la voie, par Rosine Delclos, pour que Malraux la voie encore dans sa beauté. Et en fait, elle meurt à 11h du soir, il arrive à 5h du matin.
Voilà. Peut-être, Laurent, tu vas peut-être nous livrer justement dans la Pléiade. Je pense que c'est là où ça doit être.
C'est dans Lazare.
C'est Contes et le. C'est là.
Je pense que c'est dans Lazare. Accordez les souris. C'est dans Lazare. Allez-y. Très bien.
Donc, cela commence où ? Cela commence.
Oui, allez-y.
Ici. Elle ne pouvait connaître son nom ni quoi que ce soit de sa venue. Pas même envisager la veille. Et Pierre Juillet ne passe pas pour un petit superstitieux. Pourtant, je l'avais vu quelques jours avant ma capture par les Allemands, et elle n'en avait rien prévu. Nombre de médiums sont incapables de connaître une date. Les prophètes aussi, d'après la Bible. Ce que je ne dis pas à Georges Salles, c'est que j'ai rencontré le surnaturel de façon plus poignante. En hiver 1944, en Alsace, quelques officiers de la première armée, dont je suis, doivent déjeuner le lendemain avec Churchill, qui parcourt le front. Vers 1h du matin, je suis réveillé par le planton qui m'apporte les instructions relatives à la rencontre. Ce réveil interrompt un rêve dont je garde un souvenir d'autant plus précis qu'il est plus surprenant. Une femme brune me regarde avec une grande douceur en inclinant la tête. C'est ma belle-sœur, bien qu'elle ne lui ressemble qu'à demi, et porte une coiffure, bandeau, raie au milieu, que je ne lui ai jamais vue. Une voix solennelle et un peu ironique, qui n'est ni la voix d'un rêve ordinaire, ni une voix de veille, articule très distinctement. Et maintenant, voici votre troisième femme. À 7 heures, éveil et nouveau télégramme. État Josette alarmant, venir toute urgence. Un tel télégramme n'est envoyé à un officier du front qu'en cas d'agonie ou de mort. Ce pourquoi il appelle une permission immédiate. Il neige sur toute la France. J'arrive au milieu de la nuit, avenue Alsace-Lorraine à Tulle. Ma femme est morte, coupée en deux par un train. Maquillez-moi bien, parce qu'il va venir et que je veux qu'il me voie comme autrefois. J'ai appris en mai la mort de mon frère tué en déportation. Et j'ai plus tard épousé ma belle-sœur. Je sais qu'un choc violent peut susciter de faux souvenirs. Tout de même, je dis à Georges Salles, étudier ce domaine comme un domaine scientifique est évidemment enfantin. Encore pourrait-on tenter d'y introduire la relative rigueur que l'on tente d'appliquer à la psychanalyse.
Merci Laurent.
Très, très particulier. Je vous en prie.
Non, allez-y, allez-y.
Ce texte est superbe. Là, bon, il est évidemment tiré de Lazare. Et il parle en même temps de la mort de Josette qui lui tombe dessus alors qu'il est pendant la campagne d'Alsace et en même temps du rêve prémonitoire, car Malraux croit au mystère, croit aux démons, croit... voilà. Et on lui annonce sa future femme qui est Madeleine Malraux, la sœur de son... la femme de son frère Roland, qui va mourir, dont il a ici une sorte de pressentiment, et effectivement, il épousera sa belle-sœur, Madeleine Malraux. Ce que je trouve très beau ici, c'est cette façon d'évoquer les deux femmes, mais sur un mode complètement onirique. On est à la fois dans le rêve et dans la réalité. Il y a ce phénomène de préscience. Il raconte que toute sa vie, il a eu comme ça préscience d'un certain nombre d'événements. Voilà. Et en même temps, je crois qu'on est aussi au cœur de la littérature. Parce qu'on est dans cette espèce de monde intérieur mélangé d'inconscient, de conscient, de réel, de métamorphose du réel. Enfin bon, et ce qui est très beau, c'est que de cette obscurité naît à la fois la mort tragique de la femme qu'il aime et qui est sa femme à ce moment-là, et la suite. Et ça me permet d'embrayer sur ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous dites il y aura un avant et un après avec ses fils. Je ne suis pas sûre que les choses soient aussi claires que ça.
Oui.
Malraux d'abord avait une grande habitude de la mort et ensuite, il ne s'y arrêtait jamais.
Ah.
Il disait, quand on a voulu lui offrir ses condoléances, il ne les laissait pas prononcer. Il disait invariablement « passons, passons ». Il avait sur son bureau un calendrier et il arrachait les pages de l'éphéméride à mesure que les jours passaient. Malraux, c'était l'homme de l'action, du futur, ça n'était pas l'homme du passé.
Peut-être, mais il y a un double deuil. Il perd cette femme, qui
bien sûr,
Josette, donc, qui est la mère de ses deux fils.
Oui.
Et il perd son frère.
Et
de là va naître une famille complètement recomposée.
Ah, une famille absolument recomposée, incroyable, qui ne marchera pas vraiment.
Oui.
Qui ne marchera pas vraiment, mais au fond, ce qu'il avait, il avait besoin de stabilité à la fin de la guerre. Et surtout, il avait un grand projet, qui était ses écrits sur l'art. Et vous avez très bien dit tout à l'heure, très bien fait de citer, je suis romancier, j'ai écrit des romans, mais je ne suis pas romancier. J'ai vécu toute ma vie en art, j'ai vécu en art comme on vit en religion. Et il va s'enfermer à Boulogne, et il va écrire Les Voix du silence, il va écrire la première partie de la Métamorphose des dieux, Madeleine va être à son service. Elle va le nourrir, elle va aller lui chercher toutes les images dont il a besoin chez Galignani, chez Gallimard, etc. Elle se met complètement à son service. Et le soir, quand il avait bien travaillé, elle lui disait, elle qui était une grande pianiste, « Vous pouvez taper maintenant.
» Ouais, Et il est souvent photographié avec ce fameux
Ah, il y a des
piano,
photos extraordinaires.
Le piano de Madeleine.
Ah, oui, oui. Ah, mais alors, on a des photos. Vous savez, Malraux est un des écrivains qui a été le plus photographié. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas un album de toutes les photographies de Malraux. Ce serait absolument prodigieux.
Ah, bah, ça
et alors, à Boulogne, on a cette vie de grand mondain. Il a plein d'argent. Il a un chauffeur. Il a un valet de chambre. Enfin, il a une cuisinière qui se désolait, qui disait oh, on ne fait pas de cuisine chez Monsieur Malraux. C'était pas comme chez Monsieur Guitry. Elle était avant chez Sacha Guitry. Et finalement, là, il s'enferme et il va produire ses œuvres sur l'art qui sont si mal comprises et qui sont si belles.
Oui. Et il y a beaucoup dans votre livre, vous revenez d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que Malraux est un écrivain voyageur? Voyez ce que vous écrivez, François Stéillou. Malraux n'écrit jamais mieux qu'en voyageant. Tout lui est bon. Tous les décors, tous les supports, tous les inconforts. La condition humaine, comme on sait en Chine, à Canton très exactement, où Malraux en dévoile le titre à sa compagne en septembre de cette même année 1931. Voilà.
Il n'a pas besoin de s'attabler pour travailler.
Ouais.
Il travaille très bien dans les cabines de bateau, il travaille très bien dans les barlouches.
Oui, mais alors là, c'est l'inverse.
Vous avez complètement raison, mais il y a une mutation. Ah. Comme il dirait, c'est un de ses mots, il y a une métamorphose du personnage. Le type qui était le baroudeur, l'aventurier, le marginal, il va avoir une vie bourgeoise, dans une grande maison bourgeoise. Il est locataire, mais quand il est locataire, il fait comme s'il était chez lui. Oui. Il a un superbe duplex qui va améliorer. Enfin bon, je ne veux pas m'étendre.
Oui, oui. Alors, je veux revenir juste sur Josette Clotis, François Stéillou.
Oui.
Parce que, bon, dans les écrits de Josette Clotis... Oui. Je disais les fines mouches, parce que c'est une observatrice. Par exemple, sur Camus, voilà ce qu'elle écrit. J'aime beaucoup Camus. Il est comme des gens qu'on connaît, clair et compréhensible. Il n'avait pas cet air odieux, inabordable, de mes invités de l'avant-guerre. Camus me plut tout de suite infiniment. D'abord, j'aimais son rapport avec Bimbo, donc son fils. C'était un garçon pas très grand, avec des cheveux un peu frisés, un grand front, des yeux en effet clairs, comme il le définit lui-même, des traits ronds et bosselés, qui ne le faisaient pas du tout agressif, et pas du tout inabordable. Les gens que je rencontre sans André sont d'ailleurs toujours beaucoup plus abordables. Je trouve ça...
C'est parfait.
Oui.
C'est parfait.
Et alors, nous partîmes pour les Tuileries par la rue Comartin, Bimbo, donc le petit en poussette. Et alors après, il y a quelque chose de très émouvant. Je pense que c'est les derniers fragments. Hein. La mort qui ne vous laisse pas le temps d'aimer tout. Écoutez une sardane. Je n'aurais pas eu le temps d'aimer les sardanes, de regarder les jeunes gens danser, des sardanes un soir d'été sur une plage de Catalogne, de posséder les sardanes et tout le reste. Pas le temps, pas assez le temps.
C'est complètement prémonitoire.
Ouais.
C'est prophétique. Et c'est très intéressant, ces sardanes, parce que Josette Clotis, la famille était de Perpignan.
Oui.
Et elle passait toutes ses vacances dans le Midi. Et danser des sardanes. Elle n'a pas dansé de sardanes
non.
avec Malraux.
Et elle a là, pas le temps, pas assez
pas
le temps.
Pas le temps, pas
c'est
assez
les derniers
le
mots
temps.
De Josette Clotis.
C'est pathétique, ce sont les derniers mots de Josette Clotis. C'est
bon,
très beau.
On va faire une pause musique. À moins que Laurent ait quelque chose à dire. On va faire une pause musicale.
Thank you.
sommes. Nous poursuivons notre conversation avec Françoise Théioux autour de « Je pense à votre destin ». L'histoire entre André Malraux et Josette Cottis, 1933-1944, aux éditions Grasset. Alors Laurent, tu vas nous dire exactement...
Je vais juste désannoncer ce que nous venons d'entendre, Anton Dvorak, avec ce célèbre rondeau, avec au violoncelle l'immense André Navarra. Et au piano, pour cette œuvre, eh bien, c'est une pianiste qui s'appelle Erika Kilcher. Ça a été enregistré dans les années 78-80 pour Calliope. C'est un très très bel enregistrement de cette œuvre de Dvorak.
Merci Laurent. Françoise Théioux, c'est vous qui avez fait ce...
Expliquez-nous. Voilà. J'ai pensé d'abord à ce rondeau pour raconter le début de l'idylle. Parce qu'elle commence sur les chapeaux de roue, cette idylle comme un rondeau. Mais on voit que c'est un rondeau en mineur. Ouais. Et donc j'ai tenu à associer à la vivacité, à l'alacrité du rondeau qui fait un clin d'œil à quelque chose que je vais vous dire rapidement, qui est que quand ils se rencontrent, il l'invite à déjeuner au Ritz, toujours modeste Malraux, et il va l'embrasser. Elle a un col de fourrure, c'est pas très pratique, et ils font le tour de la place de la Concorde, et il a le nez dans la fourrure et dans le cou de Josette Cottis. Et ce rondeau, c'était ce départ pour une aventure, ce départ pimpant pour une aventure, et aussi mélancolique.
Ouais,
parce
mais
que
aussi...
la mélancolie fera partie de leur histoire.
Je dirais que c'est aussi la vie de Malraux qui a teinté, on peut dire... Il a, et voilà. Alors, la mort de cette double tragédie, la mort de ses deux fils, donc il a un premier fils, Pierre Gauthier, qui va être adopté par le frère d'André Malraux au départ, puisque c'est un enfant adultérin, donc il va être adopté, Pierre Gauthier alias Bimbo, qui va naître en...
Il n'est pas adopté, c'est son fils. Il est reconnu.
Reconnu, voilà.
Il est reconnu par le...
Roland.
Oui. Voilà. Et d'ailleurs, à charge de revanche, Malraux reconnaîtra l'enfant de Roland, parce que Roland, à ce moment-là, est dans la résistance.
C'est fou.
Donc, il y a un échange de bons procédés, là.
Il y a un échange
des choses incroyables. Hein.
Oui, bon. Un échange même de... Enfin, c'est très étrange, enfin...
Et Malraux adoptera Alain,
voilà,
à la mort, bien entendu, de Roland,
voilà,
de
donc,
son papa.
Et puis, un deuxième fils, Vincent, oui, né en 43, je pense, oui, hein, et le 23 mai 1961... je crois. Donc, il faut dire que Vincent pose problème un peu à son père, parce qu'il avait une préférence pour Pierre Gauthier.
Oui. Oui,
j'ai l'impression.
Et puis il n'a jamais accepté la naissance de ce deuxième enfant. Il en voulait déjà pas un, et on lui emmène. Il en a deux. Donc, voilà, ce Vincent s'est trouvé un peu refusé par son père.
Oui. Ouais. Et il va demander, voilà ce que vous écrivez, il vient en demander l'autorisation à son père, lequel, pour partir, ils doivent passer leur bac, hein, je pense, hein, pour prendre la route. Voilà. Et lequel lui répond que quoi qu'il fasse, il n'en a rien à faire, il ne l'intéresse pas.
C'est terrible.
Ils ne se reverront plus. Les deux jeunes gens se tueront en Bourgogne le 23 mai 1961. C'est terrible.
C'est terrible. Cette histoire est terrible. Et,
alors après, donc en plus, donc sa fille aînée, Florence accourut, donc la fille aînée, il ne l'avait pas vue depuis qu'elle avait signé le manifeste des 121 en faveur du FLN algérien.
Oui.
En artiste du déplacement, dites-vous, son père lui parla toute la nuit des rites funéraires égyptiens.
Vous voyez, on est à côté de l'essentiel. L'essentiel n'est jamais dit. L'essentiel n'est pas dit, on déplace. On déporte. Et on déporte esthétiquement.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que les rites funéraires égyptiens ?
Il venait de perdre ses...
Et il vient de perdre son fils.
C'est
et
deux.
Il parle
deux
à
fils.
Florence des rites funéraires égyptiens. Vous savez, le manifeste des 121, c'est évidemment le contre l'avortement. Hein.
Non, mais en plus, c'est quand même... C'est particulier. Alors pourquoi ils ont été... D'abord, tous les trois sont enterrés au cimetière de l'église Saint-Germain-de-Charonne. Il y a Josette Cottis qui était là, mais pourquoi elle a atterri là, finalement, Josette Cottis?
Vous êtes en train de me poser une colle, je l'ai su et je l'ai oublié, je le sais très bien, mais bon, évidemment...
Je connais, parce que je connais bien le 20e.
Vous connaissez bien le 20e, pourquoi Josette est-elle à Charonne?
Dans ce petit cimetière où il y a Pierre Blanchard, d'ailleurs.
Oui,
il y a Emmanuel Riva.
Il y a Brasillac.
Oui, aussi. Mais c'est un tout petit. C'est charmant.
C'est charmant, mais c'est avec des dimensions de village de France.
Voilà.
Et on a une petite église romane avec un petit clocher roman.
Donnant sur la rue Saint-Blaise.
Il y a, un cerisier au printemps. Enfin, faut y aller.
Mais alors, je me suis posé la question, pourquoi Josette Côté ? Parce qu'elle elle est décédée,
je
finalement.
Je le sais, et je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. D'abord, je suis un peu émue. Et puis voilà, je suis âgée aussi. Non, je le savais. D'ailleurs, ça s'est fait en deux fois, parce que d'abord, ça a été un enterrement civil, et puis après, il s'est dit, parce que Malraux a une sorte de religion rentrée, quand même, et puis il est très ami de Bockel, ils ont été résistants tous les deux, ils ont fait la campagne d'Alsace, et il a dit, il faudrait... Et il y a eu une absoute qui a été dite le lendemain, pour que ses deux fils ne meurent pas, comme, ne soient pas, comme il disait, enterrés comme des sacs à pommes de terre.
Ouais. Il y a eu une veillée, enfin, je sais, à l'église, la fameuse église Saint-Germain-de-Charonne.
Oui.
Voilà. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que quand il ne s'était pas marié avec Josette Clotis, et sur la tombe, il y a Josette Clotis Malraux. Et il l'a dit, d'ailleurs, Malraux, elle ne l'a pas volé.
Ben, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit, elle aurait voulu être tangente. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est dans la correspondance, là, toutes les enveloppes sont adressées à Madame Malraux.
Ben, c'est ça.
Madame Malraux, parce que ça lui faisait plaisir, elle en rêvait. Et au fond, il n'a pas. De toute façon, d'abord, il ne voulait pas divorcer de Clara, parce qu'il avait une certaine reconnaissance vis-à-vis d'elle, que le mariage, pour lui, n'était pas quelque chose de si important que ça.
Puis c'était pendant la guerre.
C'était pendant la guerre.
Il ne pouvait pas
laisser
Clara.
Il n'était pas question de divorcer d'une juive, bien évidemment. Hein. Ouais. Bon, et puis, il lui disait, d'ailleurs, cette chose extraordinaire, que Corneille disait aux femmes qu'il aimait, « Je vous aime, c'est assez. » Moi, Malraux, je vous aime, c'est assez. Donc, voilà. Enfin, il lui a donné son patronyme. Après coup, il a fallu cette tragédie.
C'est terrible.
Puis, Josette Clotis Malraux, elle ne l'a pas volé, avec son ton un peu nasillard. Elle ne l'a pas volé, puis il est parti.
J'ai vu quelque part, Françoise Théioux, que Vincent Malraux faisait de la peinture et dessinait.
Alors, Vincent Malraux, d'ailleurs, si le père et le fils s'entendent si mal, c'est qu'ils se ressemblent. Parce que c'est,
en plus,
Vincent est un peu l'adolescent qu'il a été, moins travailleur, c'était pas la même époque de toute façon, et Vincent faisait les 400 coups, mais il était très cultivé, il avait déjà lu Proust à 18 ans, et il dessinait, comme Malraux, extrêmement bien, et même il peignait.
Voilà, c'est ce que j'ai appris.
Et quand j'ai écrit mon premier livre sur Malraux, qui est Malraux à Boulogne, la maison du musée imaginaire, j'ai pu aller voir Madeleine Malraux, et elle avait conservé un certain nombre de toiles de Vincent Malraux. Elle m'a emmenée et j'ai vu ces toiles. C'est jeune, c'est pas encore... mais il y a un élan, il y a du talent. Il aurait certainement été un grand peintre. Et c'est Alain Pompidou, qui était son camarade le plus proche, qui possède la collection, une collection assez étendue d'œuvres de Vincent.
Ah oui, donc il y a encore à découvrir. Mais c'est vrai que moi, il y a un phénomène bizarre, c'est que les deux fils, les photos... J'ai une confusion, moi. Il y a souvent sur les photos qu'on voit sur Internet de Vincent et de Pierre Gauthier, on les confond un peu.
Ils sont très beaux. Ils sont superbes, l'un et l'autre. Mais Vincent avait une beauté plus sauvage. Et puis il avait les yeux pères de son frère, ni bleu ni vert, avec cette chlorotique là qui ne va pas jusqu'à la paupière et qui leur donne des yeux très grands avec le blanc de l'œil. Là, c'est assez étonnant. Vincent ne se supportait pas et puis il en voulait à son père. Alors là, il a déclaré la guerre à son père. Ça,
oui,
c'est tout à fait
il était fiancé.
Il ne pouvait pas gagner.
Oui, et en plus, il était fiancé à une dénommée Clara.
Alors, fiancé
comme son père
Clara,
avait été avec
qui était
Clara.
La fille d'un ministre d'Amérique du Sud. C'est lui qui lui a acheté l'Alfa Romeo qui va les tuer et qu'il conduisait sans permis.
Oui, sans permis.
Donc, si vous voulez, il y a des blousons dorés. Il y a un mauvais climat aussi dans cette famille. Ils ont trop d'argent, pas assez d'affection, peut-être pas assez d'autorité.
Oui. Comment la mère de Josette Clotis, elle a pu faire son deuil ? Enfin, si toutefois, ça va être terrible. Parce
ça a été terrible. Ben, ça va être très prosaïque, ce que je vous dis, quand elle a vu sa fille. Ma nénette, s'est-elle mise à hurler. La mère est morte pas très très longtemps après. Le père a survécu. Mais ces gens-là adoraient leur fille, c'est une fille unique. Ça a été extraordinairement douloureux. Et ils ont été, d'une certaine manière, très seuls dans leur chagrin. Pour les raisons, toutes les raisons que vous imaginez.
Oui, parce qu'après, les enfants, les deux fils sont...
Alors, ils sont allés faire des séjours, quand même, ailleurs. Bon, et puis la fille de... Suzanne Chantal, dont vous avez parlé au début de l'émission, était la marraine de Gauthier. Donc, il a fréquenté beaucoup, elle s'est beaucoup occupée de lui. Bon, mais ça remplace jamais une mère.
Ouais.
Ni une mère, ni un père.
Et Malraux, alors après, qui va connaître Louise de Villemorin, qui va être la dernière femme de sa vie.
Alors, Louise de Villemorin. Alors qu'il est déjà amoureux de Josette, il y a Louise qui croise son chemin. C'est-à-dire, il commence à s'intéresser à Josette en mai, et voilà qu'en octobre, Louise arrive. Et Louise, il la rencontre chez une de ses cousines à elle, Yvonne de Lestrange, etc., et elle écrit des poèmes. Et puis elle a un chic fou, Louise de Villemorin, elle est très belle, etc. Et il se passe quelque chose entre eux. Et puis Malraux apprend très vite que c'est elle a un autre amant et que cet autre amant, il est hitlérien et allemand.
Ah oui,
alors là, c'est une fin de non-recevoir absolue. Et ils rompt. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est de savoir que c'est lui qui a édité. C'est Louis le premier qui a édité Louise de Villemorin chez Gallimard.
Ah oui.
Ça, c'est très important. Et quand elle va mourir, ils vivront ensemble très peu de temps, un an et demi, avec une vie de bâton de chaise où Louise qui écoutait beaucoup.
Oui, ouais.
Il va aussi éditer ses romans, faire éditer ses romans par la maison Gallimard. Donc, il avait une sorte d'estime littéraire. Pas pour Clara, il trouvait qu'elle écrivait avec des moufles, mais il trouvait que, et c'est vrai, que Louise avait un talent poétique indéniable.
Oui, elle dessinait aussi.
Elle dessinait aussi.
Mais j'avais cru qu'on croit aussi qu'elle était aussi maîtresse.
Il sort de la petite épicerie de Bondy. C'est un petit gars de la banlieue.
D'ailleurs, Malraux. Il décrit l'arrivée de Bondy à Paris où il allait faire.
Voilà,
c'est un autodidacte, Malraux.
Mais c'est un autodidacte. Malraux a son certificat d'études. Point. Et alors, ce qui est quand même prodigieux, c'est qu'il va se retrouver à 14 ans à Paris. Et à 14 ans à Paris, il va à la Nationale, il y passe ses journées, il essaye d'entrer à Condorcet, ça marche pas. Et il se dit, qu'à cela ne tienne, je finis les études. Et il va tout apprendre par lui-même, il va y passer ses journées entières, voire ses nuits, certaines soirées. Et il a une culture formidable. Et bon, et puis il fait un peu de langzo, enfin bon, voilà.
Il y a une question d'un auditeur, les liens qui unissaient un peu Céline à Malraux. Moi, j'ai entendu dire que Malraux a aimé le premier livre de Céline, c'est-à-dire Voyage au bout de la nuit. Quels étaient un peu leurs rapports?
Aucun rapport entre eux. Ils se sont peut-être rencontrés. De toute façon, Céline n'était pas du genre à aimer Malraux, parce que certainement il l'aurait trouvé. Il devait le trouver un faiseur. Céline détestait tout le monde sauf lui. Et peut-être lui-même, à la fin de sa vie, vu la clochardisation dans laquelle il est tombé, il y avait une sorte de haine de soi aussi.
Mais l'admiration est-ce qu'il...
Ah, l'admiration indéniable. Je ne parlerai pas de l'admiration de Céline pour Malraux. À ma connaissance, il n'y en a pas. Bon, pas d'admiration ou pas de jugement, ou bon, il faudrait chercher, mais là, il faudrait interroger les spécialistes. En revanche, alors pour votre auditeur, monsieur, il faut que vous lisiez 6 entretiens avec Grover, et vous aurez absolument tout ce que Malraux pense sur un certain nombre de grandes pointures littéraires du XXe siècle, et sur Céline en particulier, et vous verrez qu'il a une énorme admiration pour Céline, et en particulier pour le styliste qu'est Céline.
Est-ce qu'il y a eu des proches, je ne sais pas, est-ce qu'Alain Malraux a lu votre livre, Françoise Théioux, quelle est la réaction à la lecture de ce livre? Est-ce que vous avez déjà des réactions à propos de votre ouvrage?
Eh bien, je dois vous dire que... comment dire? Malraux est un personnage clivant. Alors, mon livre est... il est bien apprécié, je crois, de la part des amateurs de Malraux. Mais quand je vais dans des salons, je ne signe pas énormément, peut-être, de livres parce que, d'abord, je pense que Malraux n'est plus à la mode. Je ne sais pas si on le lit encore et ça me désespère. J'ai peur que les jeunes ne lisent plus Malraux et donc tout ça me fait très mal au cœur parce que je pense que c'est d'une richesse absolument inépuisable, que peut-être les romans sont-ils un peu datés mais ils sont tellement admirables du point de vue de l'écriture et du point de vue de ce qu'ils racontent, plus toute cette incroyable œuvre autobiographique qui se nie, qui s'appelle les anti-mémoires. Mais tous les anti-mémoires racontent des choses qu'il a faites ou qu'il a voulu faire ou qu'il prétend avoir faites. peu importe, puisqu'il n'y a pas de différence entre le rêve et la vie, et que la vie, c'est le rêve appliqué. Donc, il faut bien comprendre ça avec Malraux. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on relise Malraux, quoi. Je pense qu'il le mérite. Vous savez, toutes les questions que nous nous posions et toutes les réponses aux questions, c'est la littérature qui les donne. C'est la littérature.
Et lui-même parlait d'un antidestin. L'art est un antidestin. Est-ce que finalement, parce que ça rejoint votre titre,
je pense à votre destin. Qui prouve que le destin, c'était pour Malraux quelque chose, une notion extrêmement importante. Mais le destin, dans la mesure où, quand il dit c'est un antidestin, dans le destin, c'est quelque chose qu'on vous assigne. Évidemment, si on le veut exister, il faut aller contre le destin qui vous est assigné. Et il l'a fait. Enfin, écoutez, il aurait pu reprendre l'épicerie de Bondy. Hein. On n'a pas parlé de ça, mais la mère a été très habile. Elle aurait pu le couper de son père. Bon, et le père s'est remarié, etc. Pas du tout. Et ils ont divorcé, il avait 4 ans. Et dès que le petit Malraux a pu aller à Paris, elle l'a fait rejoindre son père à Paris. Et le père était un sous-off qui avait fait une campagne minable pendant la guerre de 14, mais il racontait comme Scheherazade. Et il y a je parle des Noyers de l'Altenbourg, j'ai eu la chance de tomber sur un incipit magnifique qui est tombé tel quel de la page de Brouillon dans le roman qu'il y change à iota. Et je crois que Fernand Malraux, il est une fille de Fernand Malraux, c'est-à-dire que c'est Scheherazade. Il s'est raconté merveilleusement, il lui a donné le goût de l'aventure, une aventure là encore rêvée, mais que Malraux, lui, essaiera de vivre. Et finalement, ce père, dont le père était probablement un obscur constructeur de bateaux de Dunkerque, mais qui avait aussi le sens de l'aventure et qui est peut-être mort en se fendant le crâne, en train de faire une proue, en se fendant le crâne avec sa hache. C'est une très belle image, un peu tragique, mais finalement de ces Malraux, de la dynastie Malraux, le grand-père, le père mégalomane, mythomane, mais admirable conteur, et le fils écrivain, aventurier, et tout le reste.
Est-ce qu'il parlait de ses fils après la mort de
Non. Non, il n'en parlait pas. Malraux ne parlait jamais des choses qui fâchent. Il ne disait de mal de personne. La punition qu'il infligeait, c'était son silence.
Oui, et même il ne revoyait pas, il ne se fâchait pas vraiment avec les gens, mais il ne les voyait pas.
Non, il ne les voyait plus. Il n'y avait pas de... Non.
Laurent, est-ce que tu as une question à poser après en écoutant...
Non, je suis tellement... d'abord, je découvre beaucoup de choses, hein, les lecteurs de ce livre vont le faire aussi, beaucoup d'éléments. J'écoute avec tellement d'attention que les questions ne me viennent pas. C'est donc un compliment pour ton invité, cher Valère.
Je dois m'excuser parce que j'ai un petit peu bafouillé, je suis un passionné.
Moi, je n'ai entendu aucun bafouillage, bafouillement, on peut faire les deux peut-être, aucun, ça vraiment, quand je vous écoute, puisque là, je connaissais le sujet, mais voilà, je découvre ces textes aussi, que j'ai lu, c'est vrai que...
Et vous les avez bien lus.
Merci beaucoup pour votre compliment, ça me touche beaucoup.
Oui.
Et quand je vous écoute, là je suis à la fois ici et comme un auditeur, c'est-à-dire que je suis en double position. Alors... et on voit un film, là, on voit...
Il y a un film,
là. Ce que vous dites, Françoise, c'est un film.
C'est un film.
Écoutez, moi, je ne demanderais pas mieux qu'on fasse un film avec cette histoire. C'est magnifique.
Ah oui. Tiens, Laurent, tu peux peut-être nous lire le portrait dont je parlais de... C'est le
portrait par Clara.
Par Clara,
très bien.
Pour conclure notre émission.
Donc un chapitre qui est...
Juste le premier, la première page.
Voilà, je veux dire cette page qui est intitulée donc La Rencontre.
Voilà.
Là, c'est un chapitre qui s'appelle La Rencontre. Un jeune homme est assis parmi une trentaine de personnes autour d'une table de banquet et c'est lui qui, pendant des années, comptera plus pour moi que tous les autres êtres. À cause de lui... J'abandonnerai tout, comme les évangiles l'exigent pour ceux qui aiment. Tu quitteras ton père et ta mère. Pour le moment, je ne sais rien de lui. Il est placé auprès de mon ami John. Si je veux le voir, je dois me pencher un peu. Il parle plus exactement. Il parle. C'est un très long et mince adolescent aux yeux trop grands, dont les prunelles ne remplissent pas l'immense globe bombé. Une ligne blanche se dessine sous l'iris d'un verre délavé. Plus tard, je dirai de lui, vos yeux plafonnent. Plus tard, je penserai à ses ancêtres marins, qui devaient avoir ce regard lointain, absorbé. Plus tard, j'ai pensé, assez sottement sans doute, il ne sait pas regarder les gens en face. Je n'ai jamais entendu parler de lui, j'ignore tout de lui. Depuis 5 minutes seulement, je sais qu'il existe parce qu'à certains instants, Jeanne rit. J'ai auprès de moi un traducteur d'allemand, luxembourgeois, de l'autre côté la femme du poète Salmon, dont Apollinaire a célébré les noces, dans un poème que je sais par cœur. C'est aujourd'hui que mon ami André Salmon se marie. Peu de choses restent en elle de ce qui a pu justifier l'amour. Sa voix vibre un peu fort. Ses bras sont chargés de bracelets d'argent. Moi, je porte, rapporté de Florence, un anneau d'or creux du XVIIIe siècle sur lequel se dessine un léger motif. Ma voisine, je vois encore ses bras d'un brun soutenu, se penche pour regarder le bijou, me dire qu'elle collectionne les anneaux. On dit qu'elle a un certain goût des femmes, ce qui me gêne un peu.
Voilà. Merci Laurent, c'était pour conclure notre conversation.
C'est très bien, c'est parfait ce portrait de Clara, merveilleux.
Voilà, et on peut lire votre livre, donc Je pense à votre destin, André Malraux et Josette Clotis, 1933-1944, donc ça fait 11 ans, une histoire de 11 ans. De François Stéillou aux éditions Grasset. J'en profite, il nous reste quelques minutes pour annoncer le nouveau numéro de la nouvelle quinzaine littéraire, le numéro 12052, qui est disponible en kiosque. La nouvelle quinzaine littéraire est dirigée par Patricia Depasse. Alors, pour ce numéro, c'est un numéro consacré à Colette. Il y a un dossier Colette et le désir et les mots. Il y a aussi un entretien avec Emmanuel Venet. Il y a un très beau portrait de Patrick Moriès, que certains connaissent peut-être, qui est un collectionneur, ami de Barthes, et qui a un musée lui aussi imaginaire assez impressionnant. Et puis il y a aussi dans la rubrique poésie un article sur Jean-Michel Maulpois. Voilà, donc vous savez, il faut soutenir les revues littéraires, hein, c'est très important. La quinzaine littéraire, c'est toute une histoire. Ça, c'est la nouvelle quinzaine littéraire, ça s'appelle tout simplement Quinzaine, et sous-titré Lettres, Arts et Idées. Écoutez, allez dans votre kiosque, demandez la quinzaine, et voilà, en sachant que ça aide aussi par les revues. Vous voyez, Malraux était un homme qui a bien connu les bouquinistes.
Très bien, les bouquinistes, et une bonne partie de sa culture vient là, et de son premier argent. Il travaillait pour Doyon, qui vendait à la Madeleine. Tronchet, et qui vendait des livres rares.
Est-ce que vous avez des projets encore d'écriture, François Stéillou, en ce moment ?
Écoutez, je suis un peu tiraillée par différentes vocations, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire. J'ai écrit sur le patrimoine.
Oui.
Et au fond, j'aurais envie là, d'écrire, mais je ne sais pas si je vais réussir à trouver un éditeur, parce que Grasset ne voudra pas de ça, je ne pense pas. Enfin, j'ai peut-être un autre ouvrage qui sera édité par Grasset. C'est tout à fait autre chose. Je voudrais travailler sur les places parisiennes du pouvoir.
Oh là, bah, y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
Oh là là.
Voilà.
Oh
mais
là
c'est
là.
Un angle très intéressant, je trouve, pour présenter. On parle toujours des places royales. Moi, je voudrais placer des places du pouvoir. La place de la Bastille est une place du pouvoir. Elle devient la place de la colonne de Juillet, qui est une place du pouvoir. Et je trouve que tout ça, ça n'a pas été assez explicité. Et j'aimerais transmettre ça.
Et on peut lire aussi donc votre livre, je crois que c'était aux éditions Bartilla.
Alors aux éditions Bartilla, j'ai publié Malraux à Boulogne, la maison du musée imaginaire, et j'ai publié une trentaine d'études sur le site malraux.org. Toutes ces études sont consacrées évidemment à Malraux.
Deux dernières questions, puisque je vois que finalement on a un petit peu...
On a encore un petit peu de temps.
On a un petit peu de temps. Quel serait le livre que vous conseilleriez à nos auditeurs pour rentrer dans l'univers de Malraux et pourquoi pas pour lire aussi Josette Clotis? Quels sont les deux livres, l'un pour...
Je vais être décevante pour Josette Clotis, parce que bon, on peut lire Le Temps Vert, qui est son premier roman. C'est un roman qui n'est pas entièrement d'elle, il a été corrigé par Henri Pourrat.
Ouais.
Donc il a redressé, il a épousté, bon, C'est un joli petit livre. Je ne pense pas que... C'est pas une sagan, hein. Bien qu'elle connaisse un peu, Gaston tombe autant amoureux d'elle que son livre, je pense. Et donc, il y a un petit phénomène sagan en 1933.
Oui, quand elle a publié donc son...
Bon, moi, je dis, attendons les écrits de Josette Clotis. Il faut que quelqu'un s'y mette. Moi, je suis quelqu'un d'âgé. C'est un gros travail. Bien. Maintenant, moi, j'ai un faible... J'adore les anti-mémoires, mais c'est pas si facile de s'y mettre. Qu'on commence par Lazare. Lazare, c'est très beau. Il a eu une neuropathie. Il est à la Salpêtrière. Toute sa vie défile dans sa mémoire. Il sera peut-être mort le lendemain. Il est entre la vie et la mort. Et il vit dans cet hôpital de la Salpêtrière une forme de synesthésie. Vous savez, ce sont toutes les sensations dans la vie. Quand il est jeune, quand il est âgé, quand il est en Orient, quand il est en Occident. Enfin, tout ce qui se rencontre, là, ce côté mondial de Malraux, universel, tout passe dans sa mémoire et aussi quelques tendres souvenirs. Et commencez par... Par Lazare.
Par Lazare. Bah écoutez, je vous remercie Françoise.
Merci à vous, ça m'a fait plaisir.
Merci à vous. Les auditeurs peuvent écouter, il y aura un podcast, donc sur le site de Radio Libertaire, vous pouvez écouter le podcast de notre émission. Et puis je te remercie Laurent Garibian, qui est fidèle à notre émission de Bibliomanie.
Ce fut avec plaisir et je reviendrai.
Et bah, j'y compte bien. Merci à vous tous, c'était Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, qui vous dit d'aller en librairie, d'avoir les yeux grands ouverts et la curiosité aux aguets. À la fois prochaine et merci à tous.
La jeune fille et la mort, pour conclure. On n'aura pas le temps de...
C'est bien. Vous êtes littéraire.
Oui.
Vous avez fait des études de...
Thank you.